Bonjour à tous ceux qu'on n'a pas salués encore tout à l'heure. Quelques places vides aujourd'hui, résultat du changement d'heure sans doute. Ça se prépare néanmoins quand même le changement d'heure, mais nous nous réjouissons en tout cas d'être ensemble ce matin. Et comme on le dit dans nos études de maison, le jeudi, chaque dimanche compte. Et c'est important de se le rappeler. C'est aussi une fidélité à Dieu au sein même de l'Église. Pardon. Alors nous poursuivons notre pérégrination dans 1 Corinthiens, et ce sera au chapitre 10. Mais ne prenez pas encore 1 Corinthiens, allez plutôt dans le livre de l'Exode. Ça nous réveille un peu pour passer dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 12. Parce que le premier verset, le verset 14 de notre section d'1 Corinthiens 10, commence par « Fuyez l'idolâtrie ». Exode 12, 29 à 34. « Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon, qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y ait pas un mort. La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi. » Verset 33, « Les Égyptiens poussaient le peuple. Ils étaient pressés de le renvoyer de leur pays, car ils se disaient, « Nous allons tous mourir. » Le peuple emporta donc sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les portèrent sur leurs épaules. Et versets 35 à 36, les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens, qui répondirent positivement à leurs demandes, et ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Bon débarras, ces Hébreux vont quitter le pays, on va leur donner de l'or, de l'argent, des vêtements qu'ils demandent, parce que sinon nous allons tous mourir. Et la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui a travaillé le cœur de Pharaon pour que les Hébreux aient la faveur de Pharaon pour partir. La gravité de l'idolâtrie. Ce sont ces deux versets qui nous parlent, 35 et 36, que nous venons de lire, qui nous montrent que les Hébreux avaient de l'argent et de l'or. Et puis, alors que Moïse faisait l'ascension du mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, les Hébreux libérés de l'esclavage en Égypte oublient les prodiges que Dieu a faits pour eux. Ils pressent à Aaron, le frère de Moïse, de leur fabriquer une idole d'or. On peut s'être demandé d'où venait l'or, ben on sait maintenant d'où vient cet or. en fondant les pendants d'oreilles, les bracelets et les colliers en or qu'ils avaient emportés avec eux. Avec l'or fondu, il construisit un veau d'or que les Hébreux adorèrent à l'imitation du taureau Apis qui était adoré en Égypte. Lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, il vit les Hébreux adorer une idole. Et contrairement au troisième commandement, Moïse fut pris d'une si grande colère qu'il brisa les tables de la loi sur un rocher. La gravité de l'idolâtrie. Le veau d'or. Exode 32, les versets 1 à 10. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne, alors il se rassemblait autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Et il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent alors, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire, et puis ils se levèrent pour s'amuser. Et l'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, descends, en effet ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu, et ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ont dit, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Ensuite, Moïse implore Dieu pour qu'il ne détruise pas le peuple dans sa colère. Et l'Éternel y consent. Au verset 15, Moïse repartit, descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. Et Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris. Et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Et Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. » En s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, versa cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux Israélites. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu le rendes coupable d'un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. » Et ils m'ont dit, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Alors c'est un déconcertant, comme dans la crispation, dans le stress de cette situation, Aaron peut dire une aussi grande bêtise ? Je l'ai jeté au feu, et voilà, il en est sorti un veau. Ce veau qui ressemble étrangement au veau Apis vénéré par les Égyptiens, comme idole de la fertilité et de la puissance, et qui ensuite a été aussi l'objet du culte d'Osiris. Ça ne vient pas de nulle part, ce veau. Si ce n'était aussi dramatique, nous trouverions cette réponse d'Aaron plutôt « bon enfant ». Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. C'est un contraste avec la gravité de ce qui suit dans le contexte de l'alliance conditionnelle de l'Ancien Testament. Nous lisons au verset 25 du même chapitre. Moïse vit que le peuple était en plein désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé au déshonneur parmi ses ennemis. Moïse se plaça à l'entrée du camp et dit « Qui est pour l'Éternel ? Qu'il vienne vers moi. » Et tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. Il leur annonça « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une entrée à l'autre, et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin. » Les Lévites firent se coordonner Moïse, et 3000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là. Moïse dit, « Vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce, au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Et Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché, et ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Et l'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leur péché. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron. Il est vrai que quand tout va mal, quand on se sent perdu, à quoi peut-on se raccrocher ? Cette question habite des millions de personnes à travers le monde. Comment croire dans la bonté de Dieu alors quand on s'enfonce chaque jour, peut-être dans la misère la plus grande, et que rien ne laisse croire que la situation va s'améliorer ? Quand on se tourne vers le ciel, celui-ci peut nous paraître silencieux. L'histoire des camps de concentration peut être un exemple, une souffrance, une privation de liberté, mais aussi la mort, la maladie, une existence qui n'en est plus une, et Dieu paraît silencieux. L'histoire du veau d'or et les 40 jours d'absence de Moïse sont exemplatifs d'une angoisse d'un peuple qui croit qu'il est abandonné. Malgré ce que Dieu avait fait pour eux en Égypte, cette absence de Moïse devenait insupportable. Plus de guide, plus de chemin tracé devant eux. Les veaux de métal sont encore plus muets que le Dieu invisible. Ils sont impuissants à nous parler d'amour et ils ne peuvent pas exprimer une quelconque compassion ni la moindre miséricorde. On se trompe si on va chercher Dieu dans d'illusoires sécurités matérielles. Car Dieu est relation, Dieu est une parole qui se communique par la voix des prophètes et par celle de nos dialogues intérieurs, conduits par l'Esprit de Dieu. Dieu est une parole qui circule et qui se donne jusqu'à avoir pris chair dans le plus doux des hommes, Jésus de Nazareth, mort sur une croix dans un témoignage d'amour absolu et ressuscité par la puissance de vie de Dieu. Aujourd'hui, le veau d'or désigne souvent l'argent comme idole, idolâtrie dont le centre de celle-ci est l'argent, le dieu Mammon. L'excès des sociétés modernes à placer leur confiance dans le consumérisme et les biens matériels peut être rapproché de cet épisode du veau d'or, ce qui nous occupe, ce vers quoi on se tourne, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir. Patrick nous a entretenu il y a 2 semaines de cet exemple d'Israël et de la gravité de leur péché. On le rappelle aujourd'hui, un exemple pour l'Église dans la nouvelle économie de la grâce. Je reprends le verset 13 de la section qui a précédé. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » 1 Corinthiens 10, verset 14 maintenant. La relation avec la tentation est claire dans ce contexte de l'idolâtrie, replacé dans le contexte de l'Église de Corinthe, où les temples païens étaient nombreux. C'est pourquoi, verset 14, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes, jugez vous-même de ce que je dis. Je vous entretenais il y a quelques semaines au sujet du chapitre 8 de notre épître aux Corinthiens, où Paul écrit « Nous savons que nous avons tous la connaissance ». Et ici, il reprend au chapitre 10 « Je vous parle comme à des personnes intelligentes ». En quelque sorte, il nous dit « Soyez conséquents, plus avisés que les Israélites qui durent être punis à cause de leur inconséquence, délivrés du joug égyptien par l'intervention de l'Éternel et qui mirent leur précieux or à profit pour réaliser un objet inerte qui les rassure et qu'il soit l'objet de leur adoration. Absurde, mais les personnes intelligentes que nous sommes se doivent de considérer la faiblesse face aux tentations, de négliger la seule adoration de Dieu, du Créateur qui nous a fait grâce par l'œuvre de la croix de son Fils unique Jésus-Christ. Car c'est bien de lui qu'il sera question dans les versets qui suivent. Les chrétiens de Corinthe étaient pour la plupart d'origine non-juive et ils avaient constamment sous les yeux les temples dédiés à Apollos, Asclépios, Déméter, Aphrodite et autres dieux grecs et romains, alors qu'ils vaquaient à leur occupation. Le culte d'Aphrodite était une source particulière de tentation. Et c'est un peu la version live des réseaux sociaux ou des sites pornographiques qui aujourd'hui ont tant de succès dans toutes les catégories d'âge et sociales dans la société contemporaine. On parle de 1000 prostituées actives dans le contexte du culte d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la sexualité. En 1 Corinthiens 6, au verset 15 à 20, déjà l'apôtre savait pourquoi. Il évoque cet aspect de l'immoralité sexuelle en particulier. 1 Corinthiens 6, 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas, verset 19, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà pour ce petit retour en arrière qui nous rappelle la pertinence de l'évocation de ce sujet si particulier en rapport avec l'idolâtrie de l'époque et qui n'est pas sans évoquer à notre époque un certain nombre de tentations particulières, subtiles de nos jours, mais aussi parfois particulièrement grossières. L'enjeu de la pureté face à l'idolâtrie. Le basculement de la prostitution des corps à la communion au corps de Christ. C'est le véritable enjeu qui concerne notre vie, qui se veut transformée par le renouvellement de l'esprit et tout dédié à la relation avec Dieu par le moyen de la foi en Jésus-Christ, notre Rédempteur. Les cultes à Corinthe sacrifient des animaux sur des autels et des passions coupables s'y répandent. Et Paul écrit « Fuyez, fuyez l'idolâtrie ». Une personne chrétienne me confiait récemment qu'elle se réjouissait de son âge plus avancé parce que la tentation était moins présente. Mais comme il y avait divers cultes à Corinthe, il y a de nos jours sous forme de tentation tant de manières de dédier nos vies à ce qui nous rassure, nous réconforte dans le domaine matériel, voire même dans la spiritualité de l'ordre du mental et du corps. Fuyez, dit Paul. En ce qui nous concerne, c'est la méditation tournée vers Dieu, le Dieu de notre salut qui nous éloigne de l'idolâtrie. Ce n'est donc pas la méditation pour la méditation, comme certains nous le présentent même à la télévision. Et on appelle ça spirituel. D'ailleurs, tant de choses occupent nos esprits et prennent notre énergie. Les besoins, les désirs, les engagements et les distractions de tous ordres. Toutes ces choses ne sont pas nécessairement mauvaises et pas mal d'entre elles sont même nécessaires à notre existence en tant que responsabilité inévitable de la vie. Nous devons d'ailleurs entretenir nos relations pour qu'elles restent saines et aimantes. Dieu nous a créés pour travailler. Et le travail absorbe une grande partie de notre temps, de notre attention et de nos efforts. Et nous accordons plus ou moins de temps, de l'énergie et de l'argent à ce qui, à nos yeux, a de la valeur. Chacun a une vision de ce qui est un trésor pour lui. Et immanquablement, cela influence notre investissement au sens le plus large, en contrôlant notre cœur et nos actions. Matthieu 8, 21 dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Et ce n'est pas à proprement parler de l'idolâtrie, mais prenons garde à ce qui pourrait s'en rapprocher dangereusement. C'est peut-être, comme le dit un auteur chrétien, de ce côté-ci de l'éternité, une guerre des trésors se déroule dans notre cœur. C'est sans aucun doute la grande leçon qui se cache dans notre passage. 1 Jean 2, 15 à 17 dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'idolâtrie est aujourd'hui, très subtilement, un détournement de l'objectif de ce qui devrait orienter la consécration de nos existences, tout en assumant ce qui est nécessaire à notre vie ici-bas, sans excès. Nous savons intimement, si nous y réfléchissons, ce qui prend le plus de place et peut-être la place qui revient à Dieu dans nos vies. Même le ministère chrétien peut comporter des aspects troublants dans ce domaine, comme dans tout domaine professionnel ou familial. Quelles sont les valeurs d'investissement qui se cachent derrière notre activité ? Activité derrière laquelle nous nous cachons peut-être aussi. N'est-il pas vrai ? La question de la liberté. Paul revient une dernière fois sur le sujet de ce qui est consacré au culte des idoles, en insistant sur la communion au corps de Christ et à l'attitude prévenante vis-à-vis de ceux qui n'ont pas la même compréhension, une compréhension aussi pointue de ces questions. Les versets 16 à 20 nous font approcher du culte exclusif que représente la Sainte Cène. Verset 16 de notre chapitre. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Et puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Que veux-je donc dire ? Verset 19. Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ou qu'une idole serait quelque chose ? Pas du tout. L'apôtre ne contredit pas ce qu'il a dit au chapitre 8. Il a dit que les idoles ne sont rien. Elles ne sont pas Dieu. Elles sont inertes. Et donc le sacrifice, la viande sacrifiée aux idoles, n'est rien pour le croyant. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Proclamer l'œuvre de Christ à la Sainte Cène est un symbole de communion. Participer à ce service, c'est offrir à Dieu un culte différent de toute autre forme d'adoration. Sa sainteté, sa beauté, sa valeur, selon le terme grec « eucharistie », qui est souvent utilisé plutôt dans l'Église catholique, qui signifie « action de grâce », on comprend mieux ici ce que ne sont censés y participer uniquement ceux et celles qui possèdent ce témoignage dans leur cœur de l'appartenance à Christ, qui ont obtenu la rémission de leurs péchés par la reconnaissance de Christ comme l'auteur de leur salut. C'est tout autre chose qu'un quelconque culte. Ce n'est même pas un simple cérémoniel. C'est un acte d'adoration exclusif. On n'y vient pas pour être pardonné. On y vient parce que nous sommes au bénéfice de sa grâce, par le salut qui nous a été accordé à la croix. 1 Corinthiens 1, verset 9, dit « Dieu est fidèle qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Communion, koinonia. Nous formons un seul corps. Le sang, c'est la rédemption. Le pain, c'est la vie dans la plénitude qui nous nourrit. Et ce sont les aspects les plus profonds de la foi. Rien n'est petit ni secondaire pour le chrétien, puisque tout est déterminé par ses relations avec le Seigneur. Mangerions-nous des choses sacrifiées aux idoles ? Nous qui avons un tel repas au centre de notre culte d'adoration ? Paul démontre que communier avec les mauvais esprits est chose impossible à ceux qui sont en communion avec le Christ par son corps brisé et son sang répandu pour eux. Il y a incompatibilité totale et ce n'est pas peu dire. Vous ne pouvez pas, verset 21, boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? Rappelons-nous que Dieu est un Dieu jaloux. Et souvenons-nous de ce qui s'est passé pour le peuple hébreu après l'événement du veau d'or. Quant à la conclusion du passage, elle fait la part belle au respect de l'autre. Il n'y a pas de variation quant à l'interprétation du chapitre 8 et de la possibilité de manger de tout ce qui se vend au marché, puisque les idoles ne sont rien, si du moins cela est bien compris. Et au verset 23, Paul écrit « Tout m'est permis ». C'est bien, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Manger de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser de questions par motif de conscience, car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « c'est de la viande offerte aux idoles », n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu ? Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, et ne soyez une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » Des règles bien précises et aussi une attention pour celui avec qui nous sommes en contact ou en relation. Toutefois, Paul termine par cette attention particulière pour la conscience faible ou vulnérable d'autres croyants. Si le chrétien est averti de la provenance, et j'imagine que ça ne va pas nous arriver communément de manger des viandes sacrifiées aux idoles, mais il ne doit pas y toucher par motif de conscience de l'autre, parce que l'autre va dire « mais tiens, il est chrétien, et pourtant il mange la viande sacrifiée aux idoles, donc comment ? C'est un problème. » Peut-être aussi que des chrétiens ne vont pas percevoir que les idoles ne sont rien. Tous n'ont pas compris. Mais si l'idole n'est rien, comme enseigné au chapitre 8 de l'Épître, Paul exhorte les croyants à vivre selon une logique d'amour et de sensibilité envers les autres, plutôt que selon leurs propres droits et leurs libertés, afin de ne pas devenir une occasion de chute pour ceux qui ont une conscience fragile. Et peut-être que nous pouvons étendre cette attention aux autres dans des comportements, dans certaines attitudes qui pourraient blesser ou choquer d'autres. Nous sommes parfois trop peu attentifs à la manière dont d'autres perçoivent certains de nos propos, parfois. Ce n'est pas nécessairement délibéré, mais tout n'est pas toujours compris de la même manière. Et ce que l'un considère comme pas très important ou anodin, quelqu'un d'autre va être choqué et va dire « Comment est-ce possible ?» Alors, prenons cet exemple que Paul donne pour peut-être être plus prudent vis-à-vis des autres, aussi dans l'Église, de manière à ne choquer personne, ou en tout cas de limiter, pourrais-je dire, les dégâts parfois. De plus, il convient de n'être en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu et ne soyez pas une pierre d'achoppement pour vos frères. La gloire de Dieu, le bien de l'homme, c'est ce qui détermine toute la vie chrétienne. La gloire de Dieu dans nos vies. L'attention de ne pas nous laisser piéger par ce qui n'a peut-être pas le nom d'une idole, mais peut-être a pris une place importante qui ne fait pas la part belle au Dieu de notre salut. C'est la leçon de ce verset 14. Fuyez l'idolâtrie et comprenez les situations actualisées dans la société d'aujourd'hui et dans celle qui fait la vie que nous construisons chaque jour après le dimanche.